Bonjour frères et sœurs, prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je te prie que tu éclaires chacun d'entre nous afin que nous sachions qu'est-ce que nous avons à faire finalement sur cette terre, qu'est-ce que nous avons à faire, qu'est-ce que tu attends de nous. Donne-nous Seigneur Jésus ta lumière afin que nous comprenions bien. Merci Jésus, Amen. Je voudrais qu'on fasse une lecture dans la première lettre de l'apôtre Jean, chapitre 1, verset 5. Et c'est donc Jean qui parle et qui dit « Voici le message que nous avons entendu du Seigneur et ce que nous vous transmettons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace d'obscurité en lui. » Amen. Ça, c'est la parole vivante. Maintenant, dans les versions plus courantes que vous avez sans doute chez vous, il n'y a pas de ténèbres en lui. C'est de Jésus que Jean tient cette connaissance. Et il dit « Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. » Paul, de son côté, il écrit dans Éphésiens chapitre 1 et verset 16, je vous le lis, on peut lire déjà un peu avant, il dit je ne me lasse pas dans toutes mes prières pour vous de témoigner ma reconnaissance pour l'œuvre accomplie en vous. Ce que je demande, c'est que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père, qui possède toute gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de pénétration spirituelle pour que vous puissiez sonder ces mystères afin d'arriver à mieux le connaître. Et vous, il ne suffit pas simplement de lire en vitesse. Non, il faut sonder ces mystères afin de mieux le connaître, d'arriver à mieux le connaître. Or, c'est important de le connaître. Le fait de connaître Dieu, c'est quelque chose de très important, puisque Jésus dit la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu et Jésus-Christ, son Fils. Donc, Paul lui dit qu'il prie pour que nous soit donné l'esprit de sagesse et de pénétration spirituelle pour que nous puissions sonder les mystères, afin justement d'arriver à mieux le connaître. Dieu, le Père de gloire, il remplit l'étendue de l'univers et conduit tout vers son accomplissement. C'est ce qu'il dit ensuite, après avoir dit donc qu'il prie pour qu'on puisse sonder les mystères, il dit « Je prie donc pour qu'il vous accorde une pleine lumière et qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous avez été appelés et que vous sachiez quelle merveille vous êtes en droit d'attendre. » Car inépuisable est la richesse du glorieux héritage que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent. Ensuite, il dit qu'il prie pour que vous preniez, je prie pour que vous preniez conscience de l'étendue incommensurable du pouvoir dont il dispose en faveur de ceux qui placent leur confiance en lui. C'est la même puissance que celle qu'il a déployée en ressuscitant Christ d'entre les morts et en lui donnant sa place à sa droite dans les mondes célestes. Et c'est là que Christ règne à présent, élevé par Dieu, bien au-dessus de toutes les autorités, toutes les puissances, les dominations, les souverainetés. Dieu lui a donné un titre qui surpasse toutes les dignités pouvant être attribuées dans les mondes présents et futurs. Absolument tout ce qui existe dans l'univers visible et invisible, présent et à venir, a été placé sous l'autorité de Christ. Et dans cette position éminente, Dieu a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Ce corps, œuvre parfaite du Créateur de toute chose, Christ le fait grandir, ce corps, Christ le fait grandir sans cesse et il comble chaque membre de sa plénitude. Lui qui, pourtant, remplit l'étendue de l'univers et conduit tout vers son accomplissement. Vous voyez, il remplit tout l'univers et pourtant, il y a besoin que les membres de ce corps, c'est-à-dire vous, moi, les chrétiens, ces chrétiens-là puissent grandir sans cesse alors, et que lui puisse combler chaque membre de sa plénitude. On pourrait se dire, mais comment ça se fait que nous ne sommes pas remplis de lui puisqu'il remplit tout l'univers? Ah, bonne question. Paul, de son côté, donc, écrit cela. Dieu le Père remplit l'étendue de l'univers et conduit tout vers son accomplissement. Par Ésaïe, Dieu élève sa voix et dit, c'est Dieu qui parle, il dit « Je façonne la lumière et je crée les ténèbres. Je fais la paix et je crée le malheur. C'est moi, le Seigneur, Yahvé, qui fait tout cela. » Ésaïe 45, 7. Ça fait réfléchir. Il faut que nous sondions ces mystères afin d'être beaucoup plus près, n'est-ce pas, de notre Dieu, dans la connaissance, que nous puissions le connaître vraiment mieux afin de savoir qu'est-ce que nous faisons ici-bas, quelle est sa volonté. Vous voyez, mes frères et sœurs, la grande intention de Dieu, en fait, c'est de séparer les ténèbres avec la lumière. J'explique. Il remplit tout en tout. Et cependant, il est au-dessus de tout. Et il est aussi dans... La question, c'est, est-ce qu'il est en dessous de... Est-ce qu'il est dedans? Est-ce qu'il est en ce qui est... Est-ce qu'il est dans ce qui est en dessous de lui? Bien sûr, mes frères et sœurs. C'est ça qu'il cherche à nous faire comprendre. Dans Job 5, 17, 18, il est écrit « Ne rejette pas l'instruction du Tout-Puissant, car c'est lui qui blesse et qui pense, c'est lui qui fracasse et ses mains guérissent. » Rejette pas cette instruction, ne rejette pas ça. C'est pour avoir rejeté cette instruction que les chrétiens voient le diable partout. Qui fait tout ça? Qui fracasse? Qui blesse? C'est Dieu, il le dit. Où cela? Ben dans sa création. Est-ce qu'il est dans sa création? Oui, parce qu'il remplit tout en tout, cependant il est au-dessus de sa création. Qu'est-ce que sa création? C'est la matérialisation de ce qu'il est. Et il est ténèbres et lumière. Il me dit, oui, mais on vient de lire qu'il n'y a en lui aucune ténèbre. Il habite dans les ténèbres, il aime demeurer dans l'obscurité épaisse. Il va me dire, mais Michel, oui. 1 Roi 8, 12, il aime demeurer dans l'obscurité épaisse. Est-ce qu'il est obscurité? Il remplit l'obscurité qu'il a créée. Elle vient de lui, ça vient de l'intérieur de lui, il l'a sortie de lui, elle est dans la création. En dessous de lui. Il a créé aussi l'antilumière, c'est-à-dire les ténèbres. Il a créé ces ténèbres, l'antilumière, afin de s'en débarrasser. C'est issu de lui, c'est sorti de lui. Alors il vit dedans, en tant que lumière, il se cache là-dedans, il se cache dans les ténèbres. Ah bon? Oui. Le psalmiste s'écrit « Dieu était monté sur un kéroub et il volait, il planait sur les ailes du vent, il faisait des ténèbres sa cachette, sa hutte, tout autour de lui, des eaux ténébreuses et de sombres nuages. » Psaume 18, 11, 12. Comment Dieu, qui remplit tout en tout, peut-il se cacher dans les ténèbres? Les ténèbres sont-ils donc plus grands que lui pour qu'il puisse se cacher dedans? Comment peut-il faire des ténèbres sa hutte autour de lui? Eh bien, la réponse, c'est qu'il fait ce qu'il veut et il peut faire tout ce qu'il veut. D'où viennent ces ténèbres? De lui-même. C'est lui qui les a créées. Sans Dieu, il n'y aurait ni lumière ni ténèbres dans la création, mais tout serait resté en lui. Ça vous semble étrange? Alors, qu'est-ce que vous allez dire quand vous allez apprendre que les scientifiques ont découvert qu'il existe de l'antimatière? L'antimatière. L'antimatière, c'est l'ensemble des antiparticules, des particules composant la matière classique, celle dont est faite la Terre, celle dont vous êtes fait, toutes ces choses-là. Anti, c'est un préfixe qui signifie que l'antimatière est opposée à la matière. Et cette opposition se fait au niveau des charges, dont la charge électrique, l'énergie. Les particules qui composent l'antimatière ont des charges opposées aux particules qui jouent le même rôle dans la matière. Par exemple, vous avez la matière, elle comprend des protons positifs et des électrons négatifs. Et bien, l'antimatière comprend les antiprotons négatifs et les antiélectrons ou on les appelle aussi positrons positifs. Et il existe pour chaque particule une antiparticule correspondante. Ça, c'est on le sait, les scientifiques le savent. Pour une particule élémentaire de charge nulle, il est possible d'être sa propre antiparticule. Et ça, c'est le cas du photon. Ah, mais il en existe des choses qu'on ignore. On peut pas tout savoir. Mais c'est bon d'apprendre. C'est bon d'approfondir. De regarder ce que Dieu a mis dans la création, parce que la création tout entière raconte la gloire de Dieu. Dieu est dans la matière, il est aussi dans l'antimatière. Il est aussi dans ce qu'on a découvert. Et alors là, les scientifiques ne sont pas cassés parce que, faute de mieux pour le moment, ils l'ont donné le nom de matière étrange. Matière étrange. Bon, vous irez sur Internet, regardez tout ça, je ne vais pas vous faire un cours de « c'est pas mon but ». La matière étrange. Alors, nous avons, nous, ici, la connaissance du bien et du mal, mais Dieu l'a aussi, et ça, il l'a eu avant, même avant nous, avant la création de l'homme, avant la chute. Genèse 3, 22. Et Dieu a créé ce système dans lequel on vit, et dans ce système, il a matérialisé ce qui est en lui de toute éternité. Il l'a exprimé, c'est issu de lui, et avant la création, il n'avait jamais manifesté d'amour. À qui voulez-vous qu'il manifeste de l'amour? Il n'y avait personne, il n'y avait que lui. Il n'avait pas manifesté de haine non plus. Et il a créé ce système pour pouvoir manifester une chose et son contraire. Alors, beaucoup de chrétiens sont choqués d'apprendre que le Dieu d'amour est capable de haine. Mais, cependant, Dieu lui-même dit « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. » Malachi 1:3. Arrêtez de rêver là, c'est pas bisounours la Bible. Hein. La haine, c'est en lui. Qu'est-ce qui peut exister qui n'est pas sa source en lui? Dites-moi un peu. Mes frères et sœurs, sa grande, sa suprême intention, c'est de se débarrasser de la haine. Le psalmiste dit, Seigneur, tu hais, du verbe haïr, tous les malfaisants. Je crois que c'est le psaume, j'ai mal noté, je crois que c'est le psaume 5, 1 à 6. Mais ces malfaisants, ils sont sortis d'où? Mais c'est lui qui les a créés. Qui peut exister si Dieu ne l'a pas créé? Et il est dit que Satan, il est menteur dès le commencement. Il était créé comme ça. C'est lui, super menteur. Il a créé les méchants, les malfaisants, pour s'en débarrasser, pour se débarrasser de la malfaisance. Proverbe 16, 4 nous dit que ça, c'est le grand but de Dieu. Ah, ça fait un choc, hein. Mais nous sommes créés à son image, nous aussi. On crée des choses pour s'en débarrasser. Il y a des tas de choses qu'on utilise et qu'on jette tout de suite après. Et c'est pas par manque d'amour, c'est parce que c'est comme ça. Et on a lu... L'autre jour, vous vous rappelez dans la prédication que je vous ai faite, que tout est de lui, tout est par lui et tout est pour lui. On peut le relire si vous voulez. Ça serait bien. On va le lire dans la parole vivante d'Alfred Kuhn. Et voilà ce qu'il est dit là, Colossiens 1, 16, 17. En lui, tout fut créé, dans les cieux et sur la terre, l'univers tout entier, l'esprit et la matière, trône et seigneurie, principauté, puissance, tout fut créé par lui. Tout est créé pour lui. Il était déjà là avant toute existence. Par lui, tout l'univers est maintenu en vie. Il a fait tout ça pour lui-même, pour se débarrasser de ce qu'il ne veut ni en lui, ni en face de lui. Il veut quelque chose en face de lui. Il veut une épouse pure, sans tache. Mais il ne veut pas une épouse... Donc justement, avec quelque chose qui ne lui plaît pas. La Bible nous dit qu'il veut une nouvelle humanité. La nouvelle humanité, ce n'est pas l'humanité que nous connaissons aujourd'hui, qui a été créée en Éden. Celle-là, elle a été créée pour porter en elle-même ce qu'il n'aime pas, pour qu'ensuite cette humanité-là vienne à maturité, afin que ce qui est bon soit séparé de ce qui est mauvais, que l'ivraie soit séparée du bon grain, que les brebis soient séparées des boucs, etc. etc. Hein? C'est une nouvelle humanité qu'il veut. Et cette nouvelle humanité, elle commence par Jésus-Christ. Pourquoi par Jésus-Christ? Parce que c'est en Jésus-Christ que tout le mal a été mis et il est mort avec. Il est mort avec le mal. Quand il était sur cette croix-là. C'est là que le jugement a eu lieu. Ceux qui croient ça... ont déjà été jugés là à la croix. Mais ceux qui ne croient pas ont déjà aussi été jugés et condamnés. Celui qui ne veut pas de Jésus, qui ne veut pas marcher avec Jésus, il est déjà condamné. Croire en Jésus, ce n'est pas croire dans son histoire, son authenticité historique, c'est croire son message aussi, c'est croire ce qu'il a enseigné, ce qu'il a dit, ce qu'il a ordonné. Il y a des ordonnances, il est plus sévère que Moïse, je vous le rappelle. Eh bien, ceux qui ne veulent pas de ça, eh bien, ils sont déjà condamnés, parce qu'ils foulent aux pieds le sang précieux de Jésus qui a coulé à la croix. Jésus est mort, mais... Et tout ce qui est mal, tout ce que Dieu est, ça a été mis sur lui. Et il est ressuscité. Et en Jésus-Christ ressuscité commence une nouvelle humanité. On va lire ça toujours dans Colossiens 1,16, on a lu ça tout à l'heure. Il était déjà là avant toute existence, par lui tout l'univers est maintenu en vie. Verset 18 ensuite. L'Église, c'est son corps. Lui seul en est la tête. Il n'y a pas de pape, il n'y a pas de gourou, il n'y a personne. C'est lui seul qui en est la tête, origine et principe. Il est le premier-né ressuscité des morts. C'est en lui que commence une autre humanité. Partout, en toute chose, il est au premier rang, car Dieu l'a décidé. Toute la plénitude doit demeurer en lui. Lui seul réconcilie l'univers avec Dieu, dans les cieux, sur la terre. Il fait régner la paix par le sang de la croix. Alors, en naissant de nouveau, nous sommes devenus les prémices de cette nouvelle humanité, c'est-à-dire que nous avons été placés en Christ, c'est-à-dire, il est la tête de ce corps, l'Église, n'est-ce pas ? Nous avons été placés, nous sommes membres de ce corps, pas membres d'une religion, membres du corps de Jésus-Christ. Il y a des véritables chrétiens partout, des véritables enfants de Dieu partout, dans toutes les dénominations. Mais ce n'est pas parce que vous appartenez à une dénomination religieuse que vous êtes forcément dans le corps de Christ. Et en tant que fils et fille de Dieu, de la même nature que votre Père Céleste, vous faites ce qu'il fait, la même chose. Et qu'est-ce que vous devez faire ? À quoi vous êtes appelé ? Vous êtes appelé à séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Exactement le travail que fait votre Père Céleste. Exactement ce que fait le Seigneur que nous aimons tant. Il se sépare du mal. Il a créé tout ça dans le but de justement, un jour, séparer les brebis d'avec les boucs, etc. etc. Et quand on est animé par son esprit qui vient en nous, eh bien nous séparons le mal du bien. Nous le mettons, nous le jetons. Et c'est comme ça qu'on démontre que Dieu se cache en nous, dans notre être, comme dans la hutte dont je vous parlais tout à l'heure. Il est dans nos ténèbres, si vous voulez. Pour ceux du dehors, ils voient que c'est ténèbres. Dieu se cache en nous. Il se voile dans notre chair. Parce qu'il y a un dehors et il y a un dedans. Ceux qui sont dedans, en Christ, si vous êtes en Christ, il n'y a aucune condamnation qui demeure contre vous. Mais alors si vous êtes en dehors de Christ, si vous faites votre propre volonté, vous agissez comme un électron libre et vous faites n'importe quoi, eh bien alors non, là, eh bien à ce moment-là, la condamnation demeure sur vous. Celui qui ne croit pas, qui ne marche pas comme il a marché, est déjà jugé. Jean 3:18. Alors c'est pourquoi l'Écriture sainte nous annonce que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Je vais vous lire un texte pour terminer, un texte que j'ai trouvé très beau et que j'ai à cœur de vous lire. Je vous le lis. Votre destinée éternelle ne sera pas le résultat du hasard, mais celui de votre choix. Il n'est jamais trop tard pour commencer à choisir la vie éternelle. Je ne saurais trop souligner que ce sont les décisions qui déterminent le destin. On ne peut pas prendre de décision à la portée éternelle sans conséquence à la portée éternelle. Chacun de vous est un fils ou une fille d'esprit aimé de parents célestes. Vous avez vraiment une nature et une destinée divine. Durant votre vie prémortelle, vous avez appris à aimer la vérité. Vous avez fait de bons choix éternels. Vous saviez qu'en venant ici-bas, dans la condition mortelle, il y aurait des afflictions, de l'adversité, du chagrin, de la souffrance, des épreuves pour vous aider à progresser. Vous saviez aussi que vous pourriez continuer à faire de bons choix, vous repentir de vos mauvais choix et, grâce à l'expiation de Jésus-Christ, hériter de la vie éternelle. Qu'est-ce que le prophète Léhi a enseigné à propos du choix? Il a dit que nous sommes libres de choisir la liberté et la vie éternelle par l'intermédiaire du grand médiateur de tous les hommes, ou de choisir la captivité et la mort selon la captivité et le pouvoir du diable. Et puis il a ajouté, je voudrais que vous vous tourniez vers le grand médiateur et écoutiez ses grands commandements et choisissiez la vie éternelle. En quoi ce que nous choisissons de penser, de ressentir, de faire, nous permet-il de choisir la vie éternelle? Nos petits-enfants sont en train d'apprendre que lorsque on fait un choix, eh bien on choisit aussi ses conséquences. Récemment, une de nos petites filles de 3 ans a refusé de manger son dîner. Sa maman lui a expliqué « c'est presque l'heure d'aller au lit. Si tu choisis de manger ton dîner, tu choisis de manger la glace pour le dessert. » Mais si tu choisis de ne pas manger ton dîner, tu choisis d'aller au lit, maintenant, sans manger la glace. La petite fille a réfléchi à ses deux choix, et puis elle a répondu énergiquement, « Moi, je veux jouer, manger et seulement de la glace et ne pas aller au lit. » Frères et sœurs, ne souhaiterions-nous pas pouvoir jouer, manger seulement de la glace et ne jamais aller nous coucher d'une manière ou d'une autre, en éviter les conséquences comme par exemple la malnutrition ou l'épuisement? En réalité, nous n'avons que deux choix éternels, chacun ayant des conséquences éternelles. Choisir de suivre le Sauveur du monde et ainsi choisir la vie éternelle avec notre Père Céleste, ou choisir de suivre le monde et ainsi choisir de nous séparer de notre Père Céleste éternellement. Mes chers frères et sœurs, votre destinée éternelle ne sera pas le résultat du hasard, mais celui de vos choix. Il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour commencer à choisir la vie éternelle. Je témoigne que, grâce au plan de bonheur de notre Père Céleste, chacun de nous peut être rendu parfait par l'expiation de Jésus-Christ. Avec notre famille, nous pouvons retourner vivre éternellement avec notre Père Céleste et recevoir une plénitude de joie. Amen. Je trouve ce texte vraiment magnifique. On n'a plus le temps de jouer aux chrétiens. Nous devons prouver que nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Des disciples animés par son esprit. Des disciples purifiés par son sang. Nous devons manifester notre vraie nature d'enfant de Dieu. Nous devons nous démarquer. Montrer que nous sommes une autre race, que nous sommes d'origine divine par notre nouvelle naissance. Frères et sœurs, nous arrivons à la fin de l'histoire de la vraie Église de Jésus-Christ sur la terre. Le monde se perd de plus en plus dans les ténèbres qui sont selon sa nature, et je vous exhorte à vous sanctifier, à vous détourner résolument des œuvres des ténèbres et à marcher dans la sainteté. Et je vais terminer mon message avec une invitation qui se trouve dans le dernier chapitre de l'Apocalypse, chapitre 22, à partir du verset 11, 10, mettons, verset 10, toujours dans la parole vivante. Et allez voir dans votre vieille version, second ou autre, allez voir. Ne tiens pas secrètes les révélations prophétiques de ce livre, car le temps de leur accomplissement est proche. Que celui qui commet le mal persiste dans l'injustice. Que celui qui aime la saleté continue à se salir. Mais que l'homme de bien persévère aussi dans ses bonnes actions. Et que celui qui s'est consacré à Dieu reste fidèle à cette consécration et continue à se laisser sanctifier. Oui, je viendrai promptement et j'apporte avec moi mes récompenses. Chacun recevra ce qu'il aura mérité par son travail. Je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Ils auront le droit d'entrer dans la ville en franchissant ses portes et de s'approcher de l'arbre de la vie. Quant aux ennemis de Dieu, occultistes, impurs, meurtriers, idolâtres et tous ceux qui aiment le mensonge et qui s'y livrent, ils resteront en dehors de la ville. Voilà, mes frères et sœurs, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. C'est un message, de 2011. Il y a beaucoup de gens qui s'attendent à voir la fin du monde pour 2012. Nous n'y croyons pas. Et nous savons une chose, c'est que Jésus revient bientôt. Ça, c'est sûr. Alors, mes frères et sœurs, faites donc le choix de suivre Jésus-Christ fidèlement, de marcher avec lui au plus près de ce que vous avez compris et de lui plaire dans vos façons de penser, d'agir, de parler. Que Dieu vous bénisse richement. C'est là ma prière. Que Dieu vous bénisse richement et vous garde dans sa paix. Dans le nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Amen. Amen.